Good Morning Business, l'expert.
L'expert parmi les experts de Nicolas Dos ce matin, c'est Denis Père, bonjour.
Oui, bonjour.
Président de Nature et People First, ce que vous nous dites ce matin, c'est que la transition écologique impose de réformer l'État, Denis Père.
Oui, absolument. Pour ceux qui douteraient de la nécessité de réformer l'État, d'avoir un État plus efficace, une dépense publique plus efficace, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la transition énergétique va coûter très cher. Elle va coûter entre 40 et 60 milliards d'euros par an pendant quelques dizaines d'années. Quand on voit le déficit public français de 80 à 100 milliards en période normale et 250 milliards en gros en période de Covid, rajouter ces montants-là, c'est pas possible à travers l'impôt. On peut pas prélever, on l'a vu avec les gilets jaunes, rajouter des taxes carbone, c'est pas possible dans un pays qui est au taquet au niveau des prélèvements, et donc il faut rajouter de la dette. Et donc rajouter de la dette à de la dette qui sert à financer le fonctionnement des administrations, parce que c'est à ça que servent les déficits publics français aujourd'hui, c'est juste pas possible.
C'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France hier soir, en plus. On est au taquet de la dette, il dit il faut que l'État dépense moins, en tout cas freine la hausse des dépenses, sinon on n'y arrivera pas.
Exactement. Et donc pour financer la transition énergétique et pouvoir s'endetter pour ça, parce que là, à l'endettement légitime, il faut effectivement commencer par réformer l'État, avoir un État plus efficace, arrêter de dépenser plus que les autres pour faire plutôt moins bien, même souvent dans beaucoup de domaines.
Et sur quoi on peut faire l'économie, selon vous, Denis?
Bien sûr qu'on peut faire des économies.
Mais sur quoi?
Déjà sur les frais de fonctionnement, sur les structures administratives. Vous regardez par exemple la santé, vous avez 35% des personnels qui ne voient jamais un patient chez nous, contre 24% en moyenne en Europe. Ça, c'est des milliards d'euros. Et vous retrouvez ça, c'est des chiffres OCDE au passage, hein, c'est complètement benchmarké, audité. Et vous retrouvez ça dans toutes les administrations. Donc là, il y a un levier absolument considérable.
L'éducation nationale, c'est notre exemple.
Hein. Vous avez la même situation dans l'éducation nationale, avec une quantité de personnel administratif
qui ne voit jamais d'élèves.
Il y a plus de 300 000 personnes qui ne voient jamais d'élèves. C'est considérable. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de leviers. Ensuite, la deuxième raison essentielle, c'est que l'État, il a une mission régalienne extrêmement importante concernant la transition énergétique, c'est de donner les autorisations. Et un État qui n'est pas agile, qui n'est pas souple, qui est lourd, bureaucratique, il ne sait pas le faire. Et dans ce domaine-là, alors tous les États ont du mal aujourd'hui, ont du mal à suivre, à donner les autorisations rapidement, de façon efficace, mais l'État français spécialement. Si vous regardez les éoliennes en mer, par exemple, le parc de Saint-Brieuc, qui a été décidé en 2008, il n'est toujours pas construit. Vous regardez ce qui se passe en Belgique. La Belgique a 60 km de littoral uniquement, avec beaucoup de conflits d'usage, avec le port d'Anvers, qui est très actif, avec des pêcheurs aussi, comme chez nous, bien sûr, avec beaucoup d'activités localement. Eh bien, la Belgique a construit 400 éoliennes en mer. Nous, on a 2000 km de côte de littoral, on a à peine sorti encore un parc à Saint-Brieuc. Donc on voit bien que l'État aujourd'hui, qui est dispersé sur très nombreuses missions, qui est très lourd, n'est pas efficace et n'arrive pas à assurer ses missions régaliennes pour la transition énergétique. Donc même si on avait les moyens de financer les projets, on a un État aujourd'hui qui n'est pas capable de les autoriser et de les mettre en œuvre. Et puis la dernière raison, selon moi, c'est que la transition énergétique, c'est une révolution industrielle qui est absolument sans précédent, probablement une des plus importantes de l'histoire récente, ces 200 dernières années. C'est des machines derrière, c'est pas beaucoup de logiciels, c'est beaucoup du hardware, c'est beaucoup des machines, et des machines qui peuvent créer beaucoup d'emplois industriel, dans un pays comme le nôtre qui est très désindustrialisé, qui est le plus désindustrialisé d'Europe, avec une industrie qui pèse 11 points du PIB, contre 14 ou 15, même dans des pays comme l'Espagne et l'Italie, même niveau que la Grèce, on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe, donc on a besoin de réindustrialiser, parce qu'on a ces régions dévitalisées avec des gens qui, les classes populaires, qui n'ont plus de salaire décent, qui n'ont plus d'avenir, même dans certains cas, et qui d'ailleurs choisissent la voie populiste le plus souvent, donc on a besoin de réindustrialiser pour toutes ces raisons-là, mais si on a une économie qui n'est pas compétitive, parce que l'État pèse trop lourd, parce que les prélèvements sont trop élevés, on ne réussira pas. Et donc, on va importer des machines, des équipements, des technologies qui sont fabriquées ailleurs. Donc, les moyens considérables qu'on va affecter à la transition énergétique, l'endettement considérable qu'on va devoir supporter dans les années qui viennent, ne servira pas à l'économie française.
La transition, c'est vraiment un facteur, une opportunité incroyable, mais il faut la louper.
C'est très cher. C'est une opportunité qui coûte très cher, qui va être très gourmande en pouvoir d'achat, notamment. Mais là, on est arrivé à un moment, pour reprendre les propos du gouverneur de la Banque de France, c'est un peu un moment charnière, parce que là, maintenant, on a porté la dette au maximum, on peut toujours aller plus loin, on peut considérer que les Japonais sont un exemple à suivre. On a porté les prélèvements obligatoires à un niveau maximum, on a porté la dépense publique à un niveau maximum, et on constate une détérioration de la qualité du service public. Donc il va falloir se poser les bonnes questions, parce que cette espèce d'univers artificiel d'argent gratuit touche à sa fin. Pendant plusieurs années, y compris surtout pendant Covid, la BCE a été l'assurance tout risque des États de la zone euro. Endettez-vous, c'est moi qui paye, ça coûte rien. C'est vrai en plus. C'est vrai, mais évidemment, ça peut pas être un mode de fonctionnement permanent. Sinon, on aurait dû commencer bien avant et continuer encore bien longtemps. D'ailleurs, ne trahions pas, ne payons plus d'impôts, faisons-nous rémunérer par l'argent de la Banque centrale. Il y a un moment, on peut avoir ce raisonnement, puisqu'on est arrivé à un moment où quasiment votre banquier vous payait pour vous prêter de l'argent. C'est fini. L'inflation est là. Elle devait pas être là, elle est là. Elle devait être temporaire, elle l'est pas. on va remonter les taux. Ça veut dire que la France, dans très peu de temps, va devoir se financer normalement. Aller voir les gens qui, normalement, achètent une dette émise par un État souverain. Ça s'appelle un assureur-vie, ça s'appelle un fonds de pension, ça s'appelle un fonds souverain. Voilà, ça, c'est un moment d'heure de vérité. Alors, moi, je me suis toujours dit qu'on n'arriverait jamais à rationaliser ses dépenses publiques. Et quand on a le coup sous la gorge, et là, on va l'avoir, il va peut-être se passer quelque chose.
C'est la suite dans Les Experts, dans 5 minutes, sur BFM Business, avec Denis Père, entre autres.